On est venu vous parler de ce qu'on fait chez Humanis, on est venu vous parler du big data, mais on est surtout venu déconstruire un petit peu tout ça, démystifier et surtout vulgariser tout ça. Et on veut que ce soit un échange, hein, que vous compreniez un petit peu. Quelle est votre place à vous qui n'êtes pas forcément informaticien dans cet écosystème, parce qu'il y a beaucoup de place pour vous. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Moi, rapidement, mon parcours, hein, c'est un parcours... souvent, on voit des candidats qui nous disent on a un parcours atypique. Ouais, on a tous un parcours atypique, ça veut un petit peu plus rien dire maintenant. Il faut être capable de rebondir dans votre carrière. Moi, j'ai fait une fac, j'ai fait un BTS d'informatique de gestion, une fac de géographie et un master de géographie et de cartographie au sein de la fac de Tours. Et j'ai fait une année via un échange au sein de la fac de Tours aux États-Unis. Voilà. Après, j'ai commencé en tant que consultant cartographe chez un éditeur de logiciels, j'ai gradué un petit peu les postes et je suis arrivé chez Humanis comme chef de projet, puis responsable commercial pour toute la région centre de Humanis. Je laisse la parole à Mehdi qui va se présenter et qui va présenter notre société.
Bonjour à tous, je suis très contente d'être là, ça fait un moment que je ne me suis pas retrouvée devant des étudiants. Mon parcours, donc moi j'ai fait une licence d'anglais à Tours qui m'a servi voilà, pour des trucs un peu extra-pro finalement, bref. Après j'ai voulu être professeur des écoles, donc j'ai fait un master ma première année, ma deuxième année que j'ai eu. Mais l'ambiance en salle de prof ne m'a pas trop convaincue, donc j'ai laissé tomber. Et après j'ai fait une passerelle que proposait à l'époque ce master-là. Pour être dans les ressources humaines. Donc j'ai fait un stage de fin d'études dans un cabinet de recrutement spécialisé informatique à Tours. Et je suis arrivée chez Humanis en tant que RH, donc tout ce qui est recrutement et suivi des collaborateurs une fois en poste, bien-être au travail, etc. Et relations université-école. Et dans ce cadre-là, j'ai fait beaucoup d'écoles et d'universités en région centre et même au-delà, avec l'INSA, avec Croisière, etc., à Limoges. Donc avec un focus sur le conseil, sur les CV, les entretiens, etc. Et depuis 2 ans, je suis passée du côté commerce. Donc j'ai laissé tomber un peu les ressources humaines pour être au plus près des clients, leurs besoins, et introduire chez eux des consultants en informatique de manière générale pour les aider à réaliser des projets. Voilà. Donc Tourangelle de naissance, et bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc Humanis, en effet, on est 3000 aujourd'hui. On a été créé en 1990, donc ça remonte un peu, par un président qui est toujours à la tête d'Humanis, qui s'appelle Laurent Pielzownik. On a plusieurs secteurs d'activité, donc des clients qui représentent bien ça, par exemple Mercedes en automobile, la Banque de France pour Banque et Finance. Vous êtes peut-être un peu loin, je ne sais pas si vous voyez bien. EDF pour l'énergie, en santé on va avoir des laboratoires comme Sanofi, secteur public on va avoir des ministères, ministère de l'environnement, etc. Télécommunication ça peut être Orange par exemple, transport SNCF, médias et sports, Canal+, etc. Des fédérations françaises de football, de basket, etc. Des domaines d'expertise, c'est là où on va en venir un peu plus aujourd'hui. Donc le domaine d'Humanis historique, c'est la data, la donnée. Humanis a été créé par un ancien statisticien, donc ça se répercute encore aujourd'hui. Donc on a commencé sur la partie stats, et très vite ça a continué sur tout ce qui est data, informatique décisionnelle et big data depuis quelques années, mais Valentin va vous déconstruire ça rapidement. Du digital, donc du développement web avec différents langages, intégration de solutions métiers, donc des solutions. Moi par exemple chez IKEA, j'ai travaillé chez IKEA pendant 5 ans pendant mes études en tant que vendeuse, on avait un petit logiciel pour les stocks, tout ça. Et ben voilà, c'est ça par exemple. D'infrastructure et du cloud. Bon, à Tours, c'est pas la chose qu'on fait le plus. Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie data. Si vous avez des questions sur les autres domaines, on pourra y répondre aussi, ça peut éventuellement vous intéresser. Je me rapproche un peu. Donc en France, on est présent un peu partout, en tout cas dans les grandes villes. À Tours, on est 210. À Tours, on est 210. On est présent également au Mans avec une trentaine de personnes. À Orléans, on a également une grosse agence qui ressemble à celle de Tours. Donc voilà, en région centre, on est à peu près 380. Donc un bon chiffre sur les 3000 en France. La région centre est la plus grosse région du Manis et la plus ancienne également. On s'est implanté à Tours il y a 14 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le chiffre d'affaires, il est écrit en gros, donc je ne vais pas vraiment. On a des valeurs qu'on essaye avec Valentin de mettre tous les jours dans notre travail. Ce n'est pas évident, mais on essaye. Donc l'excellence, le respect, la responsabilité et la convivialité. Voilà des valeurs qui sont historiques à Humanis et voilà, qu'on essaye de mettre dans nos recrutements, dans nos suivis, dans nos relations avec nos clients. Encore une fois, donc là c'est l'offre technique d'Humanis. Il y a peut-être des choses qui vous parleront, des choses dont vous avez entendu parler. Encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie data, donc qui est tout en haut à droite. Mais voilà, c'est l'expression en gros des autres domaines d'Humanis. Des choses que vous allez croiser, vous avez peut-être déjà croisé également dans votre job étudiant ou que vos parents peuvent utiliser dans leur boulot. Humanis se range derrière la fabrication, en gros, d'applications pour les métiers. On ne va pas faire de site vitrine, on ne va pas faire de site e-commerce, on ne va pas faire forcément d'applications mobiles. On est vraiment sur des sujets qui vont servir à des RH, à des services de logistique, à des services économiques dans des grands groupes ou dans des plus petits groupes également. Voilà, c'est comme ça qu'on résume un peu l'activité du Humanis.
Ça, c'est nos partenaires, on va appeler technologiques. Alors, il faut bien comprendre que dans notre métier, on a des partenaires technologiques, on a la techno, mais la techno, attention, c'est jamais une fin en soi. Ce n'est qu'un outil au service que vous devez rendre comme service au client. D'accord ? On a de plus en plus de clients qui, à force d'avoir croisé tous les commerciaux de la Terre, ils ont 50 outils. Mais ils n'arrivent toujours pas à faire ce qu'ils veulent. De plus en plus, on arrive chez les clients, on leur explique qu'ils ont besoin de rien, qu'ils ont déjà tout sous le nez, et peut-être que nous, ce qu'on va leur proposer, c'est même plus de faire de nouveaux développements informatiques, ça va être de mettre en place de nouveaux processus, d'utiliser au mieux ce qu'ils ont. Et c'est là où vous pouvez avoir votre rôle. Vous n'êtes pas expert en IT, par contre, vous allez devenir expert dans différents domaines de l'entreprise. Okay ? Donc après, les technos, vous en connaissez certainement, hein, Google, Microsoft, évidemment. Et après, des choses comme Cloudera, SaaS, Affinity, voilà, ce sont des Salesforce. Qui a déjà entendu parler de Salesforce ? Voilà, très bien. C'est quoi Salesforce ?
C'est une plateforme de CRM.
Exactement, bravo. C'est la plateforme de CRM du moment. Hein. Donc, vous vous expliquez aussi que derrière toutes ces marques, tous ces termes marketing, se cache finalement toujours la même chose depuis à peu près 50 ans. C'est juste qu'on va un petit peu plus vite désormais. Donc, mettez-vous ça dans la tête, la technologie n'est pas une fin en soi. La technologie n'est qu'un outil. C'est pas la même de nous envoyer des CV avec 200 technos que vous maîtrisez en plus en sortie d'école. Je vois des 5 sur 5 partout, je me dis c'est génial, c'est Stanford aussi, mais non, pas forcément en fait. Voilà.
Vous avez peut-être des questions ?
Oui.
Chose importante chez Humanis qui dure depuis un moment et qu'on entretient encore, c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment, le bien-être au travail, qualité de vie au travail. J'estime et j'espère que c'est une chose qu'on fait assez bien depuis quelques années maintenant. Donc on a des outils nous-mêmes en interne, des applications qui nous permettent d'avoir accès aux infos, à nos responsables assez facilement. On a une offre de formation, une plateforme e-learning, voilà, plein de choses qui nous permettent d'avancer d'évoluer dans la boîte. On a des recrutements qui sont prévus, donc on a des chargés de recrutement qui existent, qui sont dédiés à ça, donc souvent avec un parcours ressources humaines, ou psychologie du travail aussi. Voilà, notre but c'est de prendre des profils, Valentin vous en parlera encore après, mais qui en effet peuvent avoir un parcours atypique, qui peuvent s'être perdus, un peu comme moi, avec une licence d'anglais qui finalement aujourd'hui m'apporte assez peu de choses. Mais voilà, des personnes qui ont fait la fac, qui ont fait l'université, qui ont appris comme vous à chercher des informations, à se débrouiller, et c'est ça qui compte. Bon, on en reparlera un petit peu après. On propose également des certifications, des formations certifiantes. On fait beaucoup de suivi très pointu quand vous entrez dans la société, en tant que stagiaire, alternant ou en CDI. Ça, c'est nos chargés de recrutement qui s'en occupent, donc c'est très rythmé, très timé. Et nous, on en a les preuves aujourd'hui, c'est qu'on a un taux de turnover qui est assez faible finalement sur une entreprise comme la nôtre qui est rangée derrière le nombre de SN, où souvent on peut y avoir un turnover un peu plus important. Et voilà, tous les ans, vous êtes suivi par votre manager, tous les deux ans par quelqu'un des ressources humaines qui vous aide à prendre du recul sur votre carrière. On est sur des métiers qui bougent énormément. Vous avez plusieurs carrières finalement dans une carrière. On n'est plus forcément sur les carrières de nos parents où ils font quasiment toute leur vie la même chose sans trop bouger d'entreprise ou de poste. Donc voilà, on essaye de vous accompagner là-dessus de mieux en mieux et de plus en plus.
Merci. Du coup, on a aussi les ambassadeurs. Donc, on a embauché quelqu'un qui vient de votre master qui s'appelle Grégoire, qui nous a fait beaucoup de pubs, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. On a reçu des CV de sa part, des cooptations, dont celui de Solène. Je ne sais pas si Solène est là. Elle est où, Solène? Elle n'est pas là? Ah, c'est dommage, parce qu'on aurait bien parlé avec elle après. Tant pis pour elle. Bon, on va avancer. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de l'Humanis?
Elle a un autre pied. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, elle a un autre pied.
Ah bah super.
Avec la concurrence, elle est pour toi.
Génial. Est-ce que vous avez des questions? Il va falloir en avoir des questions. On ne pourrait pas tenir deux heures.
Non, mais vous inquiétez pas.
Ça va venir? Bon.
On va s'y mettre après.
Il n'y a pas de temps.
Non mais d'habitude, ils ont l'habitude plutôt de poser des questions à la tête, c'est vrai que...
Alors, voilà, c'est maintenant. Que ce soit interactif. Je suis pas là pour dérouler une presse. Ça doit être interactif. Donc les métiers du Big Data, vous êtes prêts?
Ils sont venus pour ça.
J'espère. Attention. On va utiliser plein de mots. Vous avez entendu plein de mots. Data science, data machin. Machine learning, des mots vraiment compliqués, on a l'impression. Ils peuvent choquer des fois parce qu'en fait on les comprend pas vraiment, mais tout le monde fait un petit peu semblant de comprendre, mais en fait on ne comprend pas. Alors je vais vous présenter les coupables sur qu'on crée ça. Donc, grosso modo, c'est les marketeurs, on crée des mots de plus en plus dingues pour pouvoir vendre de plus en plus. Les gens de l'informatique, parce que bon, c'est-à-dire qu'il faut justifier un petit peu qu'on fait un petit peu tout le temps la même chose, de mieux en mieux. Mais bon, on a créé des nouveaux mots, on ne dit plus un data warehouse, maintenant on n'est plus une base de données, on dit un data lake. Vous voyez, un data lake, avant on avait un entrepôt, maintenant on a un lac, data lake, et il y en a qui commencent à parler de data ocean. Alors, je ne sais pas, maintenant on aura data univers probablement, je ne sais pas trop, hein, on va s'arrêter, mais il faut comprendre la logique sera toujours la même. C'est, je prends des données à un endroit, et je les restitue à un autre endroit pour rendre un service à un métier. Quand je dis un métier, ça peut être votre DRH, ça peut être le gars de la logistique, peu importe. Mais c'est toujours la même chose. Évidemment, les gars de la Silicon Valley, ils sont aussi pour beaucoup. Pour le coup, eux, c'est eux qui ont inventé les technos. Il faut bien se rappeler ça. Toutes les technos big data à la mode, c'est ces trois-là qui les inventent, ils sont tous au fil de l'eau. Et grosso modo, ils ont 15 ans d'avance. Quand ils ont quelque chose de mieux, ils les donnent à tout le monde pour que la plèbe s'amuse avec. Il faut bien comprendre ça. Puis bon, j'avoue qu'on est un petit peu coupable, un petit peu, parce que notre service marketing, il joue aussi pas mal avec ces mots. Okay. Donc, on va essayer de vulgariser tout ça. Je pense que c'est important qu'on vulgarise, pour que vous compreniez bien où est votre place. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que vous compreniez que vous avez votre place là-dedans. Il y a des informaticiens, mais il y a aussi des gens comme vous, qui peuvent être beaucoup plus transverses dans l'entreprise. Une question? Aucune question. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non?
Il faut dire qu'on le leur dit, nous, beaucoup. Hein.
C'est vrai?
Ben oui, parce que ça nous saoule un peu l'évolution du vocabulaire. on n'arrête pas de leur répéter que l'économie d'entreprise, ça suffit déjà, voilà, c'est ça qu'ils vont faire.
Eh bien, c'est déjà pas mal. Par contre, je vous invite à aller en parler à Marketing Magazine et dans la Silicon Valley. La donnée, pour le coup, on parle d'un nouvel or, la donnée. Pour le coup, là, il y a quelque chose de vrai. La maîtrise de la donnée qu'on va pouvoir créer dans l'entreprise, la donnée, elle est partout. Vous en êtes conscient ? Elle est partout. Vous êtes une grosse base de données qui se promène. Tac, 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 là, vous vous promenez. Là, vous avez fait 10 mètres par là, votre GPS, il a envoyé à Google que vous avez bougé 10 mètres. Vous êtes une grosse base de données ambulante. Voilà, désolé de vous l'apprendre. Ça, c'est les applications B2C, qu'on appelle B2C hein, pour les clients, les utilisateurs. Il y a d'ailleurs toutes les applications d'entreprise qui vont permettre, évidemment, hein, dans 90% des cas, de vendre mieux, parce que c'est le but d'une entreprise. Vous êtes prêts avec ça? Donc là, je suis reparti d'un slide qui est notre offre data. Alors pareil, attention, les gros mots, il y en a partout là-dedans. L'idée, c'est encore une fois de vous expliquer que vous avez votre place dans cet univers. Donc, ça commence par l'axe excellence IT. Là, pour le coup, on parle d'experts informatiques. C'est pas bon. Okay. Là, on parle de gens qui ont fait Polytech, qui vont être des experts en base de données, des experts en développement, des gens qui vont finalement mettre en musique, mettre en place technologiquement ce que vous allez leur demander, parce que vous aurez été voir les gens dans les entreprises pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Okay. Souvent, c'est un travail d'interprète. Parce que l'informaticien a son langage. Imaginez un informaticien qui parle avec un contrôleur de gestion. Bah, c'est compliqué. Il faut arriver à les faire discuter ensemble. C'est normal, c'est comme ça. Un informaticien qui parle avec un commercial. Bref. Et c'est ça qui est drôle. On va avoir l'axe data. Là, on est sur qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée. Donc historiquement, il y avait cette fameuse business intelligence, la BI, hein, ça parle à tout le monde la BI. Oui, non. C'est encore 90% de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. 90% c'est de la BI, dite traditionnelle. Mais à partir du moment où c'est traditionnel, mais que ça rend le service, comme on dit, ça fait le job, que le directeur commercial, il a ses indicateurs, comme il faut, ding, 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 en ligne, est-ce qu'il a besoin d'avoir une plateforme Big Data pour envoyer une fusée sur la Lune alors que son besoin est couvert? Non. On va avoir un besoin qu'on voit apparaître de plus en plus aujourd'hui, c'est le besoin de temps réel. Je veux mes données en temps réel. C'est un mythe. Quel est l'intérêt d'avoir des données tout le temps en temps réel dans une entreprise, mis à part, par exemple, pour des brokers, pour des traders, vous savez, hein, le trading temps réel, où vous avez l'achat de la vente d'action qui se fait en temps réel. Hein, j'achète, l'ordinateur achète à 1,02€, il revend 40 secondes plus tard à 1,03€. Qui, au passage, posera à mon avis de gros problèmes dans l'avenir. Le besoin de temps réel, c'est plutôt un besoin, vous pouvez l'entendre, vous l'entendrez en entreprise, ce qu'on appelle le temps commercial. En gros, le gars il a vendu, il faut que dans la base de données, 10 minutes après, le devis soit édité, et ainsi de suite. Ça suffit largement. Ok, mettez-vous dans cette logique. Quand un gars vous dira, moi je veux du temps réel, ouais, on va dire, c'est quoi pour toi du temps réel? Ok, parce que le temps réel, à un moment, tu es en pause, donc est-ce que tu en as réellement besoin? Est-ce que tu peux attendre 5 minutes? Mettez-vous ça dans la tête. Ça, ce sera votre rôle de conseil à jouer. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Bon, puis après, données non structurées, master data management, donc ça c'est important. Ça, c'est important. Dans une entreprise, vous avez des données partout, tout le monde utilise les mêmes, mais en fait, tout le monde il a son fichier Excel derrière. Parce que personne n'a confiance au système. Donc là, le master data management, donc la gouvernance de la donnée, c'est la capacité que vous aurez à dire la donnée de référence, elle est là. Par exemple, la donnée de référence du bilan comptable, j'ose espérer qu'il est quelque part à la direction administrative et financière, vous avez compris, à la DAF, quoi. Par contre, on a souvent des problématiques dans les... dans les catalogues de produits. Une entreprise qui vend des produits, elle a un catalogue de produits en temps réel. Et souvent, on ne sait plus trop si c'est le marketing qui a le produit de référence. Est-ce que c'est le gars, est-ce que c'est le site de vente en ligne? Est-ce que c'est les magasins? On ne sait plus trop. Donc là, il y a un vrai travail. On va chercher la donnée de référence. Qui a raison? Quelle est la donnée qu'on va ensuite diffuser à l'ensemble de l'entreprise? Ok? Quand je vous ai dit ça, est-ce que je vous ai parlé d'informatique? Est-ce que je vous ai parlé d'informatique? Est-ce que je vous ai parlé d'un bon système avec du Hadoop ou Data? Est-ce que je vous ai parlé? Non, je ne vous ai pas parlé d'informatique. À la limite, l'outil que vous allez plus utiliser, ça va être Excel. Parce que vous allez faire un joli tableau en disant cette donnée, c'est telle personne. Comment vous aurez cette info si on allait en discuter? Mais je ne vous ai pas parlé d'informatique. La data intelligence. Alors, la data, elle est intelligente maintenant. Elle est intelligente que si vous la rendez intelligente. D'accord ? Une data, une donnée, c'est de l'informatique 0,1, 0,1, 0,1. C'est complètement débile, une donnée. C'est à vous de la rendre intelligente. On a toujours ce débat dans l'entreprise. On va avoir les mêmes chiffres, mais bizarrement, les gens ne vont pas dire la même chose. Parce que il y a quand même une interprétation de la donnée. Il faut la rendre intelligente, la donnée. Il faut la réfléchir. On ne peut pas prendre comme ça dans la figure une donnée en disant « Toi, tu as 20 sur 20, ça sort de l'ordinateur avec un super calcul génial, et toi, tu as 2. » Ah non, en fait, il va falloir derrière se poser la question. Expliquer aux gens déjà comment c'est calculé. On ne peut pas envoyer des indicateurs à des gens sans leur expliquer comment ils sont calculés. Oui, non? C'est un petit peu comme quand votre prof il vous met 10 et que vous êtes persuadé que c'est super. Vous allez le voir pour comprendre. Non,
la note baisse après.
Ça s'appelle un garde-fou. Alors ça c'est bien, ça évite que vous venez le voir.
Et ça marche bien.
Ça s'appelle un process en entreprise. Et puis on va voir l'axe métier. L'axe métier, alors on va dire un petit peu tout ce que je vous ai dit avant, c'est comprendre ce qu'a besoin l'utilisateur. Vous avez compris que dans l'entreprise, tout le monde utilise des outils informatiques. Tout le monde. Maintenant, maintenant, les personnes qui les créent, c'est 10%. C'est 1%. Peut-être même 0% des fois dans vos entreprises. On achète d'ailleurs des solutions informatiques. Par contre, il y aura toujours besoin de personnes qui vont comprendre à quoi ça sert. Pourquoi le gars, il a besoin de ça? Pourquoi la personne sur son call center, derrière son application, quand elle reçoit des coups de fil, elle hurle parce qu'elle doit faire 25 clics pour afficher la fiche du client d'appel? Vous imaginez? 25 clics qu'elle va faire. Je l'ai vu. 25 clics, 150 appels par jour. Elle est bien fou, la personne. Si vous arrivez avec une solution juste pour aller écouter cette dame ou ce monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais 25 clics. Mais que derrière, vous trouvez un process avec un petit développement que vous demandez aux informaticiens qui fait qu'elle en fera plus de 15, mais vous serez un super-héros. Est-ce que vous avez fait de l'informatique? Non. Vous avez parlé avec l'informaticien pour par exemple lui dire peut-être que quand il clique sur ce bouton, ça peut faire 4 actions d'un coup. Il peut faire 1, 2, 3, 4. Okay. C'est important de comprendre ça. Et je ne vous ai encore pas parlé d'informatique. Parce qu'en fait, ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin que d'informaticiens. On a besoin de gens qui comprennent comment fonctionne une entreprise. A priori, c'est un peu votre business. Non? Oui, non? On va revenir après que c'est une entreprise. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai une question juste dans tout le panorama que vous venez de dresser. Vous n'avez jamais parlé de coût de la donnée. L'archivage, le stockage, est-ce que c'est vraiment totalement négligeable?
Ça, c'est uniquement, si vous voulez, maintenant l'archivage de la donnée, c'est effectivement de plus en plus dans ce qu'on appelle le cloud, hein, donc c'est dans les services qu'on déporte. Le coût, ouais, évidemment, le coût c'est toujours important. Maintenant, on a juste basculé de budget d'Apex à OPEX. C'est tout, puisque avant on achetait nos serveurs, on les avait chez nous, ça nous coûtait une blinde. Et surtout, il fallait avoir tout un service informatique juste là pour vérifier que ça marche. Hein, des gens qui étaient devant leur, qui étaient là à 5h du mat pour vérifier, contourner dans la nuit. Maintenant, vous n'en avez plus besoin parce que vous le mettez ailleurs. Vous avez un contrat qui vous coûte facialement plus cher et c'est votre masse salariale derrière qui va être coupée. Donc, si vous voulez, le stockage aujourd'hui, il coûte moins cher à l'été. Il coûte beaucoup moins cher à l'été qu'il y a plusieurs années. Ouais, c'est juste que forcément, on en met beaucoup plus. Donc il faut trouver la, la juste mesure.
Dans les entreprises, on archive, on garde des données très anciennes.
Oui.
De temps en temps.
On garde. Déjà, il y a beaucoup de réglementaires. C'est-à-dire que dans une mutuelle, c'est 10 ans, par exemple. Une mutuelle peut archiver depuis 10 ans. Après, elle a intérêt à enregistrer ses données depuis le plus loin qu'elle a, c'est-à-dire faire tourner des modèles statistiques. Ou par exemple, comprendre un client, comprendre des choses comme ça. Donc oui, il y a...
Dans la même foulée, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confronté à des clients qui sont sensibilisés au coût écologique?
Alors... Personnellement, c'est pas la preuve. Donc c'est à nous de porter ce message, on est certifié. Moi je suis plus très fort en ça, mais la norme c'est notre norme, je crois. On est certifié de ce qu'il y a. On essaie de porter ce message. Les entreprises du 440 que je vois au quotidien, alors je suis en train de dire, je devrais pas dire ça. Mais honnêtement, c'est pas de notre communauté à date.
On s'inquiète de ce problème parce que j'ai vu que on attribue à peu près au niveau des émissions mondiales le numérique à peu près autour de 4%. Le problème, c'est que c'est un chiffre facial. On ne voit pas dans ce chiffre les économies de CO2 qui ont été réalisées grâce au numérique. Parce que celui qui fait une vidéoconférence et plutôt que de prendre l'avion, il y a les effets positifs qu'on ne voit pas dans cette apparence, cette valeur faciale de 4%. On aurait pu faire un sondage d'ailleurs. Que pensez-vous pensez-vous que c'était plus que 4% moins beaucoup de gens pensent que c'est
4%. C'est inquantifiable. C'est inquantifiable pour moi. C'est sûr qu'un data center, comme ils en ont fait dans certains pays, alors les premiers data centers, ils sont aux États-Unis, c'est sûr. Quand il fait 40 degrés l'été, il faut une centrale nucléaire pour refroidir. Oui, bah oui, c'est pas terrible. Les nouveaux data centers qu'on voit apparaître, notamment dans le nord de l'Europe, en Norvège, tout ça commence à refroidir. Microsoft est en train de lancer son data center sous-marin, parce que refroidi par l'eau. Ils y vont parce que de toute façon, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est toujours une fois les Californiens qui tirent le business, et quand ils peuvent gagner de l'argent, ils y vont. C'est-à-dire que là, ça va coûter moins cher en électricité donc de mettre ça sous la mer. Donc au final, tout le monde va être gagnant. C'est-à-dire que ça va moins polluer, ça va nécessiter moins de production d'énergie, mais les marges. Voilà, il faut être clair. Ils y vont quand ils peuvent gagner. Je vais vous déconstruire beaucoup. Ça vous va comme réponse? Alors, l'évolution du traitement de la donnée. Alors là, je suis remonté à 280, parce que moi, j'étais pas dit. On a commencé à faire, alors on est plutôt dans l'aspect BI, c'est-à-dire prendre des données puis les sortir des indicateurs pour pouvoir prendre des décisions. La business intelligence, c'est ça, avoir des indicateurs pour prendre des décisions. Bon, je vais vous le faire très rapidement, il y a eu plusieurs phases, les années 80, donc là en gros dans les années 80, le truc qui tournait la nuit, pop, un petit peu la machine à fumer, la machine à vapeur. Hein. Et puis le matin, vous arriviez, et puis, bon bah, des fois c'était même des rapports imprimés qui sortaient directement. Hein. Vous mettez pas forcément des réseaux. Ou des fichiers Excel avec des données qui sortaient, et puis bah, les gens les regardaient. Bah. Déjà, c'était énorme. Là. Dans les années 90, on a eu les premiers reporting. Vous savez, les premiers dashboards avec des camemberts, des machins comme ça. La grosse révolution, c'était Business Object. Je ne sais pas si vous connaissez Business Object. Business Object, c'était un truc français qui a été racheté par SAP. C'est souvent l'histoire d'ailleurs des sociétés françaises dans l'IT. Mais c'était vraiment un produit révolutionnaire où les gens voyaient leurs indicateurs, ils pouvaient faire leurs extractions, c'était super. Ils pouvaient aller chercher de la donnée par eux-mêmes, les métiers, donc on n'en pas les informaticiens, puis faire des requêtes, et puis ça sortait des trucs, et puis on avait des tableaux 400 colonnes par 400 lignes, c'était super, personne ne comprenait rien, tout le monde avait l'impression d'avoir la vraie donnée de référence, et c'était super. Ils en ont rendu. Alors ensuite, on a eu, dans les années 90, ou dans les années 2000, vois, en fait, c'est toujours un peu la même chose, il n'y a rien de nouveau. On fait toujours des dashboards, c'est les technos qui changent, c'est tout. Alors dans les années 2010, on a vu apparaître ce qu'on appelle le in-memory, des outils comme ClickView, Tableau, ça vous parle? Vous avez essayé? Non? Sérieux? C'est rigolo, c'est pas compliqué à utiliser. En gros, vous mettez un fichier Excel, une base de données, comme ça vous pouvez facilement secouer la donnée dans tous les sens, pour faire des indicateurs. Voilà. Donc ça, alors ça, c'était des slides il y a 3 ans, c'est pour ça que c'est le présent. Parce que là, maintenant, on est, on est dans le futur, bon, on est fait. Ce qu'il faut bien comprendre, les années 80 aux années 2010, on était capable. Et là, c'était un frein technologique. On était capable, à grande échelle, de regarder ce qui s'était passé hier et ce qui se passait aujourd'hui. Voilà, hier, aujourd'hui. C'est tout. La puissance de calcul, on en revient au big data. Le big data, il y a un truc qui est vrai, j'ai un petit peu déconstruit tout à l'heure en disant que c'est une invention marketing, c'est qu'il y a quand même des nouveaux outils qui permettent de calculer beaucoup plus vite. Et ça nous permet de regarder le futur. J'analyse mes ventes. Pendant 15 ans. Par exemple, sur une problématique de saisonnalité. Vous savez, le mec qui vend des poulets, enfin, vous êtes des merguez, bah, il a une saisonnalité sur l'année. C'est là qu'il sait qu'il va en vendre beaucoup plus en fonction de la météo et ainsi de suite. Puis le temps aussi, c'est ça. Enfin, le temps, du mois. Il va en vendre avant, pas de janvier. Du coup, il va avoir des outils pour pouvoir prédire ce qui va se passer. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire, bah là, demain, tu me prépares. 200 palettes supplémentaires parce que demain, ça fait 10 ans que ce jour-là il fait beau. La météo que j'ai récupérée d'un site en direct me dit qu'il fait beau. J'ai des gens qui sont passés sur mon site web, tac tac tac, qui ont regardé, vous savez, ils ont cliqué, ils ont regardé les merguez et tout. Oh putain, ils vont acheter. Et hop, ça a balancé à la chaîne de production. Ça, on peut le faire maintenant, on peut prévoir ce qui va se passer. Ok ? Sauf qu'on va en revenir après à cette fameuse intelligence artificielle, elle n'est pas du tout intelligente. C'est vous qui allez donner l'intelligence. C'est vous qui allez dire c'est quoi les signes. C'est quoi les signes qui font que les ventes vont augmenter. Ou c'est quoi les signes qui font que les ventes vont diminuer. C'est à vous de les avoir, et ça vous les obtiendrez avec des modèles statistiques. Hein, j'ai vu hein, des régressions linéaires, des CV, des choses comme ça. Ça, c'est à vous d'implémenter. L'informaticien, en fait, il ne l'implémente pas dans le système. Il s'en occupe pas pour vous. Et il fera tourner ça. Ça vous parle tout ça?
La phrase à la fin, quand vous avez dit l'informaticien va implémenter ça.
Oui.
Est-ce que le risque, c'est pas qu'à terme, ce soit lui qui fasse le boulot? Dans la totalité, je veux dire, pour lui, c'est que deux lignes de code, il y a un outil qui va triturer des données et faire une projection.
Non, pour moi, le risque, il ne m'en pas, parce que en général, l'informaticien est passionné de technique, c'est tout à son honneur, c'est super. Par contre, il a plus de difficultés pour aller discuter avec un métier. Vous voyez ? Après, oui, je connais, on a des gens qui sont informaticiens, qui sont complètement autonomes pour aller discuter avec un métier, prendre le besoin de revenir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vérité générale. Mais, en majorité quand même, il faut le dire, les équipes informatiques ont besoin de ce fameux interprète entre les équipes informatiques et les besoins du métier. Voilà. Parce que analyser des besoins de métier, moi j'ai des postes qui sont ouverts à plein temps. Si j'explique ça à un développeur, il va me dire non, je suis développeur, je veux pas faire ça. Vous voyez ? Ça vous va ? Dites-moi, j'entends aucune question, je trouve la phrase là.
Donc peut-être que ce qu'on pourrait dire d'un point de vue universitaire, le dire à l'audience, c'est ce qui est projeté là, c'est la réalité de notre métier dans l'entreprise. Si on devait faire, à partir de 1980, la réalité dans le monde universitaire de ces actions-là, évidemment, elles arriveraient beaucoup plus tôt, parce qu'en gros, il faudrait décaler de au moins 10 ans le départ, et l'arrivée au futur, il serait déjà presque en 80-90. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi qui ne suis pas né en 80, mais en 68, et donc qui ai fait mes études universitaires dans les années 90, bon, dans une université un peu dans le futur, tout ça jusque 2020, je l'ai fait pendant mes études universitaires, avec aussi prévoir le futur et tout ça. Tout ça, il n'y a rien de nouveau d'un point de vue intellectuel. Alors, peut-être le petit truc nouveau, c'est le coup de la merguez, intégrer facilement des données météo, parce qu'à l'époque, connecter tout ça, mais ce n'est pas un truc intellectuel, c'est un problème de disposition. Mais tous les modèles qu'on vous apprend, là, sont, enfin tous, en tout cas ce que vous voyez un peu dans ce qui est... Alors je parle pour les mécènes, hein, d'accord, pour les lissasses, c'est le futur pour vous. Mais ce que vous apprenez par exemple avec Vincent Perolas et tout ça, sur ce dessin, c'est pour la quasi-totalité des entreprises, 2040 en fait, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on est en train de vous apprendre à la fin des faits, c'est qu'on est encore plus dans le futur. C'est évidemment intelligent, puisque vous êtes, vous, en 2040, pas en 2020, c'est pas ça.
On est en 2030. Notre cœur business, il est 2010. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est principalement de la BI, hein, avec quelques petites briques de data pour aller plus vite. Mais la réalité, parce qu'en fait, on se heurte toujours à la même réalité, la réalité, elle est économique. Et elle est, est-ce qu'ils ont réellement besoin d'aller plus loin aujourd'hui? Pas forcément. On avait des. En 80, il y a encore des applications plutôt. Une anecdote que je trouve assez dingue. MMA, mon client de nous. Il y a ce qu'on appelle un batch. Un batch, c'est un programme qui tourne toutes les nuits pour créer de la donnée. Qui tourne toutes les nuits depuis 1968. Le même. Toutes les nuits. Bon, alors en vrai, ils savent plus trop s'il sert à quelque chose. Ils ont tellement peur de l'enlever. Si ça se trouve, ça va faire exploser un truc qui ne touche pas. Et il y a des gens qui maintiennent ce batch. Il date de 1968. Ouais. Mais si ça marche, tant mieux. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. La règle d'art en informatique, la règle de base, c'est si ça marche, touchez à rien. Parce que si vous vous amusez, parce que.
Dans le cas des activités d'humanisme qui est créé dans les années 90 et donc suit ces évolutions technologiques, à l'intérieur de ces activités, est-ce qu'il y a un déplacement, je vais le dire avec mes mots, je ne sais pas, je ne connais pas la technique, mais de humanisme et du conseil, et de partie des entreprises de services numériques, et est-ce qu'il y a un changement dans la valeur ajoutée du conseil ou de l'humanisme? Est-ce que par exemple, il y a une grosse valeur ajoutée à faire purement du développement, plutôt du traitement de données, plutôt de... Comment ça se produit la
grosse valeur ajoutée, j'insiste, c'est de comprendre les besoins métiers et de les traduire en IT. Ça, c'est la grosse. Et comment vous le faites? En fait, ça va se faire avec l'expérience, parce que si vous avez vu ça chez A, vous avez vu ça chez B, au client C, vous allez lui proposer un mix des deux parce que vous avez vu un truc bien chez A, un truc bien chez B. Ou alors vous allez lui dire, attention, lui il a fait ça, fais attention. Mais, en fait, on a coutume de dire qu'on n'a jamais, très rarement, planté un projet informatique à cause de la technique. On trouve toujours une solution. Technique, on trouvera toujours une solution. Alors, l'architecte, il hurlera, parce qu'il dira que ce n'est pas dans les règles de l'art, mais on trouvera une solution. Par contre, on a planté un projet informatique humaniste comme tout le monde, hein, parce que, mauvais échange avec la demande, mauvaise compréhension de la demande, mauvais dispositif de pilotage. C'est là-dessus que les projets se jouent. C'est sur l'humain. C'est sur la capacité que vous avez à comprendre ce que le mec il est en face et la capacité que vous avez à, grosso modo, à être bien avec votre client. Mais la technique, honnêtement, on n'y est pas peur. Hein. Enfin, c'est pas la technique qui fait et qui défait les projets. C'est tout. Ça, c'est un exemple d'une application métier d'un report. Voilà. Ça, c'est des choses que, avec des outils, ça, c'est un outil qui s'appelle Power BI, je ne sais pas si vous connaissez. Mais non. Vous ne connaissez pas ? Il va falloir regarder. Quand même. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous. Hein. Ça, vous pouvez le faire, ne me dites pas, moi je dis un informaticien, je ne peux pas le faire. Ça c'était avec un petit logiciel qui s'appelle Power BI. Vous allez tirer des traits, vous allez chercher une donnée qui a été préparée en amont par le service informatique, par exemple, et vous allez mettre ça en place. D'accord ? Ça, vous trouvez quoi ? Vous trouvez des indicateurs d'entreprise. Vous trouvez des indicateurs. Alors là, une pure société de service. Hein. Vous trouvez des indicateurs d'entreprise. D'accord ? Ça, a priori, encore une fois, ces indicateurs-là, c'est pas un informaticien qui l'a créé. Qui les a inventés, ces indicateurs. Oui, non ?
Dites-moi. En fait, ça, c'est des outils qui sont justement adaptés à des personnes qui sont pas, qui n'ont pas le besoin de coder. C'est comme Tableau, c'est on a la base de données et on a des widgets qui font ça.
Exactement.
C'est quelque chose. Mais après, pour des métiers comme nous, on est plutôt dessiné, ça va être des choses que nous, on va plutôt coder à la main, etc. Avec des applications RShiny, des dashboards en HTML, etc. Donc finalement, en fait.
Pourquoi vous voulez nous donner un dashboard en HTML alors que vous avez des outils qui vont les faire ?
Parce que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus.
C'est quoi vous ?
La manière d'agencer le dashboard, par
exemple. Ouais, ça c'est. Vous avez une.
Parce que c'est vachement diminué. Enfin, pour avoir fait un peu de tableau, bah, finalement, c'est vachement diminué, parce que c'est les outils qui les ont
déjà. Ok, sauf qu'il y a une petite. Il y a une légère variable dans l'entreprise, c'est le coût. Ok ? Ça, ce tableau-là, il le faut en deux jours. Ça va très très vite à faire. Ça va très très vite. Faut pas que vous oubliez ça. Vous allez avoir des contraintes économiques. On fait pas ce qu'on veut, en fait. On se fait pas plaisir. On est là pour rendre le service au métier dans un budget qu'on aura bien voulu vous donner. Moi, ça, je pense ça. Ok ? Donc, mettez-vous en tête, encore une fois, l'outil n'est qu'une fin en soi. Peut-être qu'il vous dira, ton HTML, c'est super. Ouais, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, votre capacité à comprendre les indicateurs. C'est tout. Votre capacité que vous aurez à les comprendre où sont les données qui permettent de les calculer dans la base de données de l'entreprise. Okay. Et après, pourquoi pas, même ça se trouve, même pas faire ça, juste faire un document qui dira, il y a telle donnée, telle donnée multipliée par telle donnée, ça fait tel indicateur, faire une plaquette que vous dessinez à la main et vous l'envoyez à quelqu'un qui va le faire, qui sera peut-être même un fournisseur. Peut-être même quelqu'un de même pas de votre boîte. Oui. Mettez-vous ça en tête, comprenez ce tableau, si vous avez compris ce tableau, si vous êtes capable de comprendre les données qu'il y a là-dedans, si vous ne les comprenez pas tout de suite, il suffit de poser la question. C'est une grosse force, hein, c'est une force de poser les questions. Le reste, on est qu'un outil. J'insiste. Ça répond à votre question, je crois. Ça répond à votre question. D'autres questions ?
Alors, en fait, dans ces cas, l'utilisation de ces logiciels, c'est imposé.
Voilà, c'est ça la question.
Alors,
en fait, il y a deux. En fait, c'est général. Dans les grands groupes, vous allez avoir les achats qui vont référencer l'outil de BI. Et en fait, vous n'avez pas le choix.
Voilà.
Mais c'est encore qu'un outil. Ils font tous la même chose. Dans les. Ou peut-être, au début, vous arrivez au début d'un projet. On vous dit, faites-moi un benchmark des différents outils. Quel est l'outil qui correspond plus à vos besoins ? Enfin, quel est l'outil que tu préfères ? Quel est l'outil qui correspond plus à vos besoins ? Il n'y a pas de vérité ça. Souvent, dans les grands groupes, c'est imposé parce qu'il y a des politiques d'achat groupées pour écraser le coût de la licence qui font que, voilà, on se dit que du Power BI, que du Tableau, que du outil.
En fait, il faut dire deux choses par rapport à ce que pensait Thomas. Derrière sa question, il y a deux choses. Ici, on est en train de parler avec quelqu'un qui dirige un intermédiaire. En fait, tout est entreprise, même nous, mais c'est une entreprise prestataire de services. Et Thomas, lui, quand il pose sa question, à mon avis, il se place comme un économiste d'entreprise qui est embauché chez Danone. Oui. Alors chez Danone ça marcherait pas parce que sans doute ils ont acheté une licence pas chère, mais chez Tartampion où il y a 150 employés et que pour le moment savent, ils n'ont même pas de dashboard, ils ne savent même pas ça, ils ne font pas ça, ils ont du Excel au mieux. D'accord ? Et donc là, évidemment, si vous êtes embauché par ça, vous aurez absolument la liberté de prendre le logiciel. Il y a une autre notion qui n'est pas évoquée là-dedans, et qui quand même, quand on regarde les offres d'emploi et de stages, commence à bien arriver en France, il y a quand même de plus en plus l'utilisation de logiciels gratuits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toute notre politique R et tout ça. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un peu sous-jacent à votre question, il y aura sans doute des espaces de liberté. Mais il faut bien comprendre quand même qu'une entreprise, c'est l'entreprise, que à peu près toutes ont l'objectif de maximiser leur profit, à peu près toutes, d'accord, en tout cas dans ce cadre, oui, mais que être un prestataire de service ou le producteur en soi d'un bidule, ça fera que votre métier n'a pas le même cadre coercitif, j'allais dire. D'accord ? Là, eux, ils débarquent dans un endroit, typiquement, ce qui vient d'être répondu, c'est vrai, dans une entreprise qui a déjà un accord, c'est déjà fait. Donc il a pris Power BI, là, je crois qu'on en a, quelqu'un a déjà parlé de Power BI, non ? Donc, voilà, bon, classique, le tableau, bon, nous, ça nous fait rire, on dit que c'est pour les gestionnaires, bon, on est mieux, les économistes, bon, on va là, on peut le dire. C'est ce qu'on le passe, d'accord, tout le monde le dire. Mais c'est ça qui vous... La réponse, c'est ça pour moi. Mais quand même, moi, je maintiens que vous aussi, vous allez sans doute débarquer dans des endroits où ils n'en sont pas tout à fait là encore. Et là, ce sera aussi à vous à apporter et peut-être ce que vous considérez de mieux. Il y a deux options. Est-ce que l'entreprise a déjà ça ou elle n'a pas déjà ça? Voilà. Donc si elle a déjà ça, ben vous allez dire, mais non, votre TIC, TC, elle ne sert à rien, il y a un autre indicateur qui est intéressant. Et dans celle qui n'a pas, il va aussi construire d'abord ce truc-là. C'est pas, à mon avis, le même. C'est pas, vous êtes plus en amont dans une entreprise qui n'a pas commencé, quoi.
Oui, après, il y a quand même. Quand même pas oublier qu'il y a plein de gens qui ont déjà essayé tous les outils gratuits du marché et tous les outils payants, et il y a des retours d'expérience qu'il vaut mieux prendre en compte. Voilà. C'est quand même très important. Les outils gratuits, il y en a plein, ça fait vraiment le boulot, ça pose des problèmes de maintenance, ça pose de gros problèmes de maintenance parce qu'on ne sait pas s'ils existeront encore dans le temps, et ça fait peur aux entreprises. On peut se dire, ouais,
Mais Power BI, c'est pareil. Ben moi, par exemple, je suis né en 1968,
oui.
Excel n'existait pas. Parmi nous, on a fait notre formation, je ne sais pas, 1, 2, 3. D'accord ?
Oui.
Donc voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a une politique qui n'est pas intelligente, c'est une évidence. C'est moi, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est un table.
Oui.
Pas forcément Excel, ce que c'est un table. Alors après, je ne sais pas comment il faut le dire, il faut comprendre ce que c'est un dashboard. Mais au sens générique,
c'est sur vos écrits.
Voilà.
Un dashboard, c'est une succession d'indicateurs que vous saurez calculer. L'outil, en fait, on ne devrait même pas parler d'outil.
Non, mais comme vous disiez, est-ce que vous connaissez Power BI,
ah, oui.
Vous devriez. Moi, je dis non, c'est pas sûr que vous devriez. Vous voulez savoir ce que c'est un dashboard.
Ok.
Non, mais vous devriez, parce que sinon, on va toujours trouver un logiciel qu'on devrait connaître. Et on n'y arrivera jamais à tous les connaître.
La définition du big data. Donc, vous avez compris qu'on manipule de la donnée publique au moins en 1938, au moins.
Depuis plus longtemps.
Depuis plus longtemps.
Parce qu'on a des charges du 17e siècle à dessiner à la pub.
Bien sûr. Non, mais je vais la donner du carré. Du le big data, pour le coup, moi, c'est défini comme une boîte à outils, des outils. Qui vont permettre de. Alors, c'est ce qui a été défini par les trois V, hein, c'est la variété. Vous allez chercher tout un tas de données qu'on ne pouvait pas forcément traiter avant. Alors, des vidéos YouTube, des données de santé, et ainsi de suite, pour stocker des volumes beaucoup plus gros de données. D'accord ? Et à avoir une capacité de calcul qu'on n'avait pas avant. Néanmoins, ça obéit toujours à la loi de Moore en informatique, c'est-à-dire que, j'ai plus la loi exacte en tête, mais grosso modo, tous les 10 ans, on est capable d'aller 2, 3, 4, 50 fois plus vite. c'est juste une suite logique de l'informatique. Le big data, ce sont des outils pour le coup technologiques qui vont permettre de faire des calculs grosso modo que vous ne pouvez pas faire avant. C'est juste ça. Avant, les machines, elles explosaient. Ou alors, oui, il fallait avoir le super calculateur branché à Cap Canaveral, mais a priori, vous ne pouvez pas tous se le payer, celui-là. Donc là, on est capable de mettre en réseau, pour faire très très schématique, vous sortez tous vos PC là, vos PC portables, qui coûtent entre 500 et 1000 euros, et avec les technologies du data à nous, je suis capable de tout brancher ensemble pour en faire un super calculateur. Voilà, c'est juste ça. Là où avant, on était obligé d'acheter des machines monstrueuses, à un coût incroyable. Ce qui a permis d'arriver à ça, c'est ça, c'est le fameux Hadoop. Le reste, les usages qu'on va en faire avec cette vitesse de calcul, cette variété de données de volume, ça va vous les inventer. On va après réfléchir ensemble, on va essayer d'en inventer ensemble, après, si ça vous va. Est-ce que vous comprenez bien ça? Mais sinon, je prends toujours de la donnée qui vient d'un petit peu partout. Alors, la capacité de traitement qu'on a, c'est qu'on peut aller chercher de plus en plus de données extérieures à l'entreprise. Les données, les fameuses données météo, les données à les marketeurs sont fans, les données en temps réel sur les réseaux sociaux, à les capter en réel, en temps réel ce qui se passe sur votre site web parce qu'il y a un gars qui est en train de cliquer, avec un objet connecté, le rêve de l'assureur, c'est de savoir précisément ce que vous faites. Hein. Aujourd'hui, ah, il roule à 4 sur 1 nous, tiens, hop, son tarif il vient d'augmenter. Oh. Voilà, ça c'est le rêve de l'assureur, le rêve ultime. Après, il y aura forcément des garde-fous réglementaires, et tant mieux, hein, notamment sur les données de santé aussi. Santé, c'est l'Eldorado pour certains. Ils veulent aller là-dedans. Ils veulent savoir ce qui se passe. Parce que vous imaginez, si vous avez ça, vous, comme ça, qui est capable de prédire que vous avez la grippe dans 3 jours, il y en a qui vont acheter ça cher. Ça vous parle? Ça vous parle? Ou est-ce qu'on avait déjà du big data en 1968? J'ai un doute. On avait, à l'époque, une révolution technologique probablement qui calculait 40 fois plus vite que celle d'avant. Et on s'était dit, c'est super, voilà. Et bien, c'est exactement pareil.
Ce n'est pas ce qu'on appelle le big data. C'est clair que quand on n'avait pas les solutions de stockage, on n'avait pas, pas beaucoup de données stockées. Mais elles n'étaient pas pires. Elles n'étaient pas pires.
Exactement. Donc, elles prenaient plus de temps à être analysées. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Est-ce que vous avez une autre définition du big data à me donner? Ça, c'est la mienne. Hein. Toujours pas? Alors, ok. On en arrive au fameux stockage des données. J'ai trouvé ce site statista.fr, plutôt pas mal. Ça, ça vous donne juste une idée, en fait, du volume de données créé. Alors, on part en zeta-octets. Alors, moi, j'arrive même plus à me rendre compte de ce que ça représente. Hein, c'est monstrueux. Il faut bien comprendre que ça, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Après, ce truc-là, en fait, c'est juste histoire d'informatique. Hein. C'est pas nouveau, ok? C'est pas nouveau. C'est juste que, comme disait monsieur, avant, on n'avait pas les capacités de stockage numérique pour les stocker. Maintenant, on les a, c'est tout, la différence, c'est ça. Avant, un disque dur de, on avait des disques durs de 10 mégaoctets. Vous imaginez quand même, 10 mégaoctets. Quand le développeur il mettait le truc de commentaire, ils se faisaient engueuler à l'époque. Est-ce que ça prenait de la mémoire? Là, maintenant, il n'y en avait pas.
Ce graphique, il est trompeur parce que c'est du volume, mais c'est bien pas sûr de la qualité de données qui est faite. Il y a plein de choses à la
bien sûr.
On peut avoir des pinces énormes, mais c'est de qualité de
données. La qualité de données, nous, ça fait 30 ans qu'on a travaillé dans l'entreprise. La donnée pourrie, il y en a partout qui sont. La donnée en double, en triple, en quadruple, en quintuple, ça c'est pas nouveau. C'est juste que là pour le coup, on en revient à votre réflexion sur l'écologie, c'est comme ça ne coûte plus grand chose de stocker, on s'en fout de ce qu'on stocke.
Ouais, parce qu'il n'y a pas de compte.
Voilà.
En fait, la question que je me posais par exemple, c'est comment on est un peu avancé à la question de coût marginal, bénéfice marginal. La question que je me pose souvent, c'est effectivement, est-ce que le coût marginal de stocker la donnée, pris en compte aussi les coûts environnementaux, à un moment, qui devient effectivement. il est effectivement inférieur aux bénéfices qu'on peut attirer. Parce que moi, j'ai un peu l'impression, mais je pense que vous pouvez confirmer, que pas pour toutes, mais il y a certaines entreprises où en fait, c'est record. L'utilisation de la donnée, ça dépend simplement du fait que c'est très à la mode et qu'il faut le faire, voilà. Et pas parce que vraiment le bénéfice marginal que j'obtiens est stockant en fait la dernière information que j'ai, en fait ça m'apporte vraiment quelque chose à faire des business.
Soyons très clairs, il y a beaucoup de projets informatiques qui sont lancés dans des entreprises, des administrations, n'importe où, parce que certaines personnes sur leur ligne, sur leur CV, veulent avoir la ligne qui permet de dire j'ai créé le projet Big Data. Oui, et c'est là où notre rôle de conseil est d'arriver, de leur expliquer que, en fait, ils n'en ont pas forcément besoin. Ils ont des besoins, mais ce n'est pas forcément ça. Je suis d'accord, c'est une petite en avant. Après, la qualité de données, je pense que la qualité dans la masse baisse parce que c'est moins cher de stocker, donc on stocke un peu tout. C'est l'histoire, en fait, c'est une histoire, vous déménagez, vous avez tout votre bazar dans un placard, et en fait, vous avez un grand garage, et en fait, vous vous rendez compte qu'au bout de 2 mois, en fait, vous avez rempli votre garage avec du bazar. C'est exactement même chose.
Donc, il y a un vrai travail pour aller. Les payer beaucoup plus pour stocker, alors c'est que à Paris, les gens, ils n'ont pas de
garage. Exactement.
Par qualité des données, j'entends que peut-être en 2010, on avait très peu de données pour mesurer l'audimat sur les chaînes TV, parce que là c'est juste un petit panel de 1000 Français qu'on sort, alors que avant 2035, maintenant si on prend toutes les données, temps réel, des box qui sont connectées. Donc effectivement, ça donne cette impression qu'on a un volume énorme. C'est tendance, et la qualité des données, elle n'arrive pas à la même proportion, c'est ce que je veux dire.
Bon, je pense que d'accord, c'est là où vous avez votre problème. La donnée, de toute façon, c'est à vous de la transformer en quelque chose d'utile. La donnée, on peut en stocker, c'est pas compliqué, je peux en stocker bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'algorithmes, notamment chez Google, qui nettoient la donnée considérée comme utile. En temps réel. Parce que, en plus, ça peut créer des problèmes dans les modèles statistiques et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste un slide qui montre ce qui arrive dans l'informatique depuis.
Peut-être juste quand même, parce que là, donc, l'aspect qui est évoqué, c'est le coût environnemental et on ne sait pas quoi que ça, parce que c'est pas cher. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Très bien, il y a le coût environnemental, mais ça, c'est évident que les entreprises sont très loin de ça encore. Mais je pense qu'on néglige quelque chose. On n'est pas à l'abri quand même que pour gérer cette foultitude de données, on a embauché plein de gens et donc on a des coûts personnels peut-être inutiles parce qu'on a décidé de collecter, gérer ces données. Et là, ça ne doit pas être la même histoire en termes de coûts. Donc, rôle à jouer aussi, sans doute que réfléchir à qu'est-ce qui est utile et pas utile, de faire gagner en termes de s'approcher de la brute au niveau de vous, des choses énormes, sans tenir compte des externalités sur l'environnement. Parce que, à mon avis, à stocker autant, et si on pense qu'on stocke des choses inutiles, forcément, ça génère au moins des coûts salariaux. C'est évident qu'il y a des bons normes, et ça coûte cher. C'est pas parce que le matériel coûte pas cher, surtout que dans nos pays, on sait bien que c'est plutôt les salaires qui impactent les coûts de production plus que les investissements. Donc, vous voyez, ne pensez pas qu'au coût environnemental, il y a peut-être une approche. Alors, c'est sûr que on ne parle pas d'une entreprise à 100 personnes, parce que qu'elle a un stock un peu trop, ça doit être marginal. Mais dans les grands groupes, peut-être qu'il y a, il y a des services où il y a 20 personnes qui pourraient être diminuées à 2. Parce que tout n'est pas utile, peut-être.
Pourquoi pas ?
Il y a une question.
Alors, on va passer vite.
Alors, la fameuse intelligence artificielle. J'ai pris la définition de Wikipédia.
Ça n'a pas l'air encore enseignant.
Néanmoins, je l'ai trouvé pas mal. Elle permet de simuler l'intelligence. Simuler.
Elle va pas la remplacer, l'intelligence. Elle peut la simuler, grosso modo, elle peut faire de plus en plus vite des tâches ultra répétitives, par exemple. Elle peut
imiter, qui vont remplacer l'homme dans certaines mises en œuvre dans ce concept de l'homme. Je vous montre une image, après vous allez comprendre. On voit qu'on en est loin. Hein. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, elle ne va pas nous manger de main. Hein. C'est encore mieux de piloter parce que l'intelligence, elle est intelligente que parce que vous avez décidé qu'elle est intelligente. Okay. On a juste une puissance de calcul qui permet de faire des tournées des algorithmes beaucoup plus lourds. Et ça nous fait croire que le truc est devenu intelligent. Il n'est pas intelligent. Il n'est absolument pas intelligent dans la définition qu'on a mis être humain est intelligent. Alors après, c'est évidemment beaucoup d'interprétations, beaucoup de fantasmes, Des inquiétudes, on a vu des films, on a vu des récits, des essais philosophiques. Mais par contre, j'ai généralisé ce que j'ai trouvé l'article plus récent, qu'effectivement, ça reste bien inférieur au point de vue de ces aptitudes naturelles. Donc, n'ayez pas besoin, on n'a pas de manger. D'accord ? On calcule plus vite, on calcule sur des jeux de données beaucoup plus gros, et c'est pas pour ça que l'ordinateur est intelligent, puisqu'on continue de faire ce qu'il dit. Donc lui, bah ouais, il est là, il rôde, mais vous, vous êtes encore lui quand même. C'est encore vous qui décidez. Vous pouvez lui dire stop, vous pouvez le débrancher, ça reste un ordinateur. Il n'est pas capable d'aller se brancher sur le réseau. Il n'est pas capable d'aller se brancher et lui dire, ah ben là, il faut de l'énergie, je suis éteint, il faut que je me réveille, il faut que je me lève, il faut que j'aille brancher la prise. Il n'y a pas. Il calcule juste plus vite, et vous avez compris, il y a 10 ans, on a sorti un truc qui disait que les ordinateurs calculaient plus vite que les ordinateurs d'il y a 10 ans. Donc en fait, l'intelligence artificielle, on en revient toujours à la même histoire au début, ça reste des choses très marketing, si on peut le dire comme ça. Alors après, il y a un autre fantasme, c'est le machine learning. C'est de croire que la machine, elle va apprendre tout seul. Genre, un jour, la machine, elle va se lever à marcher. Le machine learning, pareil. C'est des maths et c'est des stats. Hein. C'est encore des 0 et 1 qui pilotent la machine. Toujours pareil. Comment ça fonctionne? En gros, on lui donne un énorme volume de données, de plus en plus gros, des jeux de données de plus en plus gros, et on va lui apprendre. On va lui dire, ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est jaune, ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est rouge. Voilà, sur 40 millions de lignes. Ouais, bah, au bout de 40 millions de lignes, elle saura vous dire si la case que vous envoyez elle est rouge ou jaune. Parce qu'elle aura déjà vu 22 millions de lignes jaunes et 18 millions de lignes jaunes. Bon, je vais, évidemment, elle est capable de. Sont capables d'apprendre sur d'autres choses, mais le jour j'étais avec un mec chez nous, un expert, aujourd'hui, il montrait des choses, la machine, elle n'est même pas capable de générer toute seule des images en plus de 16 pixels de large. Alors vous me dites, fabrique-moi un être humain, alors il se rappelle une fois qu'il y a une tête, un truc comme ça, mais on en est très très loin, très très loin. Elle ne peut pas apprendre toute seule. Elle peut uniquement apprendre dans un cadre que vous lui avez dit. Et c'est là où la suite de la phrase est plus intéressante, je crois que c'est incapable d'aller au-delà du cadre imposé par ce jeu. Il n'y a pas, aucune capacité d'extrapolation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas déjà vu le cas, il ne peut pas se dire peut-être que c'est ça. Vous voyez la différence? Vous êtes des êtres humains. Pas péril. Oui, non. Vous êtes capable à un moment de vous dire que ce truc-là c'est bizarre. Lui, il est capable de dire que ce truc-là c'est bizarre. Lui, il va complètement paniquer. Tu vas vous renvoyer le premier résultat qu'il croit que ça va te donner. Alors en fait, vous devez montrer le verre. Vous comprenez la logique ou pas? Donc ça peut avoir son utilité à faire apprendre à la machine tout un tas de trucs comme ça pour qu'elle traite les tâches de manière répétitive. Ça peut avoir plein d'utilité. Mais encore une fois, ce n'est pas magique. Et l'humain doit être là pour... L'humain est un garde-fou, hein, de toute façon. Tiens, un exemple que j'ai trouvé hier, rapidement. Je trouvais ça cool. Ça, je trouve ça marrant. Vous l'avez vu ça? C'est beau. C'est quand même génial. Le gars, il a pris son smartphone qu'il a branché à Google Maps, il a mis ça au même endroit. Google Maps, il a dit il y a un nouveau dégage, il y a 100 bagnoles qui sont emboîtées, et il a détourné le trafic. Et ouais! Donc forcément, et pourtant, Il n'a pas fait un truc de dingue, il a juste mis 100 smartphones dans une charrette. Voilà. Parce que la machine, on lui a jamais dit, attention, s'il y a 100 smartphones dans une charrette, ne t'en dis pas. Sauf qu'un être humain, il arrive en bagnole derrière, il voit une charrette avec 100 smartphones dedans, a priori, il double. Voilà. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, après, des cas, voilà, on va essayer d'appliquer rapidement le Big Data ensemble. Alors, évidemment, on va parler des gros dans la Silicon Valley, Uber, ouais, super. Là, pour le coup, a priori, personne ne travaillera pour Uber. Bon, qu'est-ce que ça a plus peur? Comment est-ce que vous êtes capable de collecter des données en temps réel? Alors, Uber, attention, moi, je suis pas en train de débattre sur le bien fondé de l'entreprise. D'accord? Est-ce que Uber, c'est bien? C'est pas mon débat ici. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est des applications que vous connaissez. Ça, c'est du Big Data que vous connaissez. Okay. Il y a ça, beaucoup dans le sport. Donc, pareil, avec la Fédération française de foot, justement, pour analyser les données. Et pour en revenir à la question de santé, on se rappelle, je vous le dis, mais tout le monde, où le gars avait collecté tout un tas de données sur des joueurs de gauche, je ne sais pas ce que vous avez vu, il faut le regarder si vous faites les stats. Il est top. Ce gars, et c'est une histoire vraie, hein. Donc il a gagné le championnat de baseball juste en achetant des joueurs sur des modèles statistiques. Alors évidemment, le baseball se prête particulièrement aux modèles statistiques. On fait toujours la même chose, sauf que bah, ils le font sur beaucoup plus de joueurs et ainsi de suite, avec beaucoup plus de paramètres, parce qu'il y a plus de puissance de calcul. Néanmoins, ce gars-là, dans les années 60, avec des fichiers test, il a fait ses petits calculs et tout, il a acheté une équipe de mecs qu'il n'avait jamais vu. Hein. C'est le même pas qui c'était. Il les a mis et il a gagné. Bon. Alors ça marche sur le tout. Le PSG, ça marche pas.
Non, mais ça marche à Liverpool, puisqu'ils ont embauché une équipe.
C'est vrai.
Everton. Everton. Ah.
Everton. Parce que Everton a acheté la bonne partie
pour le rugby, parce que Galtier a fait venir beaucoup de statisticiens.
Oui, bien sûr. Et vous travaillez avec le foot, parce que la question sur les talents, c'est ça. Ah, non, toujours réagir.
Mais ce qui est important dans le stratège, et donc ça va aller avec votre propos, pour ceux qui n'ont pas vu, je sais que ceux qui m'ont. Souvent je le conseille, le film, parce que je sais que vous lisez plus de livres, mais
qui est gratuit en
fait. Ouais, le film qui a dû sortir dans les années 80-90, c'est dommage. Ce qui a été dit, c'est un gars a fait des statistiques, donc genre home run et tout ça, des choses faciles à compter au baseball, et a acheté la meilleure équipe. Dit comme ça, c'est le boulot de Julie et de Franck, c'est-à-dire que c'est que des maths. Dans le stratège, il y a une autre dimension. Et en faisant ces statistiques, il a regardé les joueurs qui rentraient au top de ces stats et qui étaient sous-cotés sur le marché. Et là, il y a la dimension économique. C'est-à-dire qu'il a acheté des pas chers. Ce qui était bon, mais pas vu. Et c'est là que vous êtes. C'est important de dire ça.
Merci, c'est vrai. La réponse, je vais trop facile. Alors, maintenant, vous avez donné des exemples d'applications qu'on pourrait faire en Big Data qui sont déjà en place. Allez, j'en veux deux dans les assurances.
Allez, et c'est pas les profs, c'est des.
Oui.
Parce
que
pour la tarification des primes.
Ouais.
Donc, bah, en fait, je pense qu'en assurance, c'est pas encore le cas, on n'a pas encore le bracelet qui va donner ça, parce qu'en fait, faut d'abord que le client soit d'accord avec ça, de surveiller. Et est-ce que ça vaut le coup au client de vraiment donner son battement cardiaque, le fait d'aller en soirée, etc. Est-ce que c'est bien pour lui? Est-ce que ça vaut le coup pour lui?
Alors ça, c'est des questions qui sont purement philosophiques et juridiques, quand même, très bien. Néanmoins, le rêve de l'assureur, et il le voit avec le Big Data, c'est de faire un prix à la personne aux oreilles. Voire à l'heure, à l'utilisation du véhicule, ou je ne sais pas, faire, enfin, c'est de faire un prix à l'individu. Plus dire, je fais un prix parce que vous avez entre 20 et 30 ans, vous habitez dans telle commune, c'est de faire un prix à l'individu. Rassurez-vous, le prix plus bas, le prix actuel, Un autre exemple, en assurance ou mutuelle, par exemple, en assurance mutuelle. Bon, du coup, eux, c'est eux les premiers qui parlent de machine learning. Vous savez pourquoi ? Pourquoi j'arrive, je vais dire à et le gars, il me dit, bon, voilà, je peux pas vous dire, Martin, mais le rêve de mes patrons, c'est de virer tous les actuaires, c'est ça me parle, hein. Voilà. C'est tous les virer et les remplacer par des robots et des machines learning. On va pas arriver tout de suite, hein. Il est vrai que les acteurs sont des gens particulièrement bizarres. C'est-à-dire que comme c'est eux qui tiennent la tôle, c'est ça, hein, c'est eux qui font les prix, c'est eux qui gèrent le risque. C'est clair, c'est eux qui décident à peu près tout ce qui se passe dans leur boutique. Ils n'ont pas de compétences. Donc, il y a des gars en informatique et à la DG qui se sont dit on va les remplacer par des robots. Ça ne marche pas non plus, vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc, il va falloir trouver un juste milieu. Ok. N'oubliez pas, si vous travaillez en mutuelle, assurance, prévoyance, le seul truc qui compte, c'est la gestion du risque. C'est combien je utilise mon risque. C'est tout. In fine, vous devez arriver à ça. Comme si vous travaillez dans le retail, c'est combien de coûts vous mettez une merde. Tout de suite. D'autres outils. L'automobile. Ah, quand même, tout le monde nous parle là en ce moment de la 5G, des méchants chinois avec Huawei. Là. C'est quoi l'enjeu de la 5G pour les automobiles ? Une automobile, en fait, elle n'est pas autonome. C'est-à-dire qu'elle va être obligée de parler en permanence avec, pour l'instant, avec la 4G, elle parle en permanence avec le satellite qui renvoie au serveur, qui lui renvoie une information. La 5G, l'intérêt, c'est la promesse, on dit la promesse cliente, parce que ça va être tenu, mais c'est de dire que la voiture de gauche qui va croiser la voiture de droite, elle va pouvoir parler directement en scène. Elle va pouvoir se parler directement, dire attention. La voiture A, elle arrive dans un bouchon, elle va envoyer l'info à celle qui arrive un kilomètre derrière, attention, il y a un bouchon qui arrive, vous voyez ? Mais effectivement, la voiture autonome, c'est quelque chose qui va arriver. Après, on n'y est pas encore totalement, parce que ça pose encore d'énormes problèmes juridiques, liés à des risques assurantiels. Je vais vous donner un exemple et je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Vous êtes dans votre voiture autonome, un piéton traverse, que fait la voiture ? Elle vous sauve vous le piéton ? Le débat est là. Technologiquement, c'est une question de cette année, en disant c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait la voiture ? Et ça pose un problème. Ça veut dire que le gars qui a besoin, qui peut payer une prime d'assurance très chère, bah, il dit bah moi tu m'écrases le piéton, tu sauves ma famille, et celui qu'on a pas beaucoup va prendre l'assurance pas chère, on le met dans le procès, on verra bien ce qui se passe. L'automobile autonome, le débat est là aujourd'hui. C'est plus les problématiques technologiques. Tesla a mis un coût énorme pour faire avancer tout ça. Les constructeurs s'y mettent derrière. Tout le débat est juridique. Tout le débat est juridique. C'était quoi l'autre ? La grande distribution. Vous savez, ce domaine qui dit qu'il n'y a plus rien qui va, c'est compliqué. Bon, ils ne disent pas qu'ils vont un petit peu quand même. Ils ont un petit peu profité pendant 50 ans. Ils sont un petit peu dévoués d'argent. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire à la grande distribution ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec du big data, un volume de données plus grand ?
Ouais. On va mettre des entrepôts, des
tapis. Ouais. Bon, Amazon, ils s'en servent. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour débattre sur le bien fondé d'Amazon.
Du ciblage.
Beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'on va plus, on en revient à l'assurance, on va plus faire des segments en fonction d'une tranche, mais on va cibler à la personne. Yves Rocher, on l'a fait en France, c'est-à-dire qu'on va cibler à la personne. Yves Rocher, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont fait un projet de data à 100 000 euros, ils ont gagné 1% de chiffre d'affaires. L'un dans l'autre, ouais. Hein ? Et ça, pour le coup, on l'a vu, hein, c'est quantifiable. Ça leur a coûté 100 000 euros de prestations. Donc, pas de personne. On a juste formé des gens qui faisaient historiquement de la BI. On les a formés à faire autre chose. Un projet bien mené. Pas tout près, bien. D'autres cas dans la grande distrib? Non? Le traitement, vous savez que vous avez tous une carte Carrefour, une carte machin. Alors les mecs, ils sont dingues parce qu'ils me disent « Moi, j'ai 80% de taux de pénétration contre un actif, la carte Carrefour, du Carrefour du coup. » Donc forcément, tu as 80% de taux de pénétration du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font quasiment rien actuellement de leurs données. C'est fou, mais ils n'en font quasiment rien. Pourquoi? Parce que quand on est dans une situation de monopole où tout va bien, c'est là où on s'endort. Donc ils ont une mine d'or de données, ils en font rien. Donc là, ils commencent à réfléchir parce qu'ils ont compris que ça commençait à leur chauffer aux fesses. Donc on en revient toujours au ciblage, etc. J'ai pas mis la santé. Les hôpitaux, par exemple, ça peut servir à quoi
Par exemple, à l'Institut Pasteur, dans la santé, ils ont embauché une équipe de leur peu de Big Data aussi pour automatiser les séquençages de génome, etc., par exemple, pour détecter des choses rapidement.
Voilà. Parce que ça fait plus vite. La santé, voyez-le avec les objets connectés aussi. La télémédecine. Par exemple, il y a fort à parier que dans les 10 ans, pour moi les 10 ans, et c'est pour ça que les médecins généralistes sont un petit peu inquiets, on puisse se faire un diagnostic de au moins prendre toutes ses fonctions vitales, juste en mettant la main via la montre sur une maladie. Ce qui va faire des économies énormes si c'est bien géré à la sécurité sociale. C'est tout en passant. Par contre, évidemment, reste le cadre juridique. Qui a tout ça? Est-ce que c'est la machine qui a raison? Est-ce qu'on va mettre un cadre tellement restrictif que dans 99% des cas, la machine va avoir le docteur? Tout ça, vous découvrez, tranquille. Je sais pas. Mais n'oubliez jamais, vous avez votre place aussi à jouer dans tout ce qui est juridique. Parce que vous posez toutes ces questions juridiques. On en revient, c'est pas que le RGPD. Vous avez vu ce truc-là, protection des données personnelles, qui est inapplicable. En l'état, c'est inapplicable. Je vais vous donner un exemple. Donc vous avez compris que tout le monde s'est couvert sur Internet en disant j'accepte, vous cliquez partout. Moi, quand vous venez sur mon site, vous allez me laisser des données parce que vous avez fait j'accepte et que vous n'avez pas lu ce truc-là. D'accord? Qui dit que je vais utiliser vos données dans ce cadre-là. Soit, si je fais un développement informatique ou un autre traitement qui n'est pas prévu, je dois vous demander votre avis. Inapplicable en l'état. Vous avez des questions? Vous n'avez plus pour longtemps. Là, je voulais vous parler de vous. Vous dans la salle. Et je voulais qu'on commence par ce qu'est une entreprise. Vous comprenez bien là où vous allez atterrir. Une entreprise, c'est un ensemble de services. Donc vous avez, là, je vous ai pas tout fini, hein. Par exemple, les achats. Donc les mecs qui sont prêts à mettre leur sous, hein, vous savez, là ils ont tous un compte Amazon Prime, c'est un peu moins cher. Vous avez le marketing, bon bah, des fois vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, mais c'est eux qui vont vous dire qui sont les clients, donc c'est eux qui vont vous dire où vous allez chercher l'argent, et c'est eux finalement qui vont vous aider, qui vont vous présenter l'entreprise à l'extérieur. Vous avez la DAF, on va le garder à du trésor, hein, avec le contrôle de gestion, vaut mieux être rigoureux. Vous avez le service informatique, hein, les gars qu'on a planqué au quatrième sous-sol. On va voir quand on a un problème de réseau. Est-ce que tu peux m'aider? Non, mais moi je suis développeur en fait, j'y connais à rien, disque dur, ça s'arrête, c'est ce qu'on dit tout le temps. Quand je vais voir ma mère, elle me demande de réparer son PC, donc je dis qu'il n'y a rien. Vous avez les vendeurs de photocopieurs, de travail, et commerciaux. C'est quand même mieux dans le domaine informatique quand ils comprennent un petit peu ce que c'est l'informatique. Vous avez d'autres services, il n'y a pas de hiérarchie dans les services, enfin, tous les services d'une entreprise sont importants. Vous allez avoir le juridique, le service RH, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gens-là, ils se parlent. Mais ils ne se parlent pas de manière. Vous savez, il n'y a pas de réunion où tout le monde se parle ensemble en plein air. Non, tout le monde se parle dans tous les sens. Dans tous les sens. On a coutume de dire, alors on peut le dire, le consultant, il fait une presse, on peut le dire, parce qu'en fait, à la pause cigarette, il a pour des plein de trucs. Pas le dire, aller à la pause café, devant la machine à café, vous allez apprendre énormément de choses, parce que c'est l'endroit où vous allez voir des gens qui ne sont pas de votre service, que vous ne croisez pas forcément. J'ai déjà fait l'exercice chez un de mes clients. Je dis à mon client, il y a qui en dessous de toi à l'horizontale, à la verticale? Il ne sait pas. Le mec, il ne sait pas. Soyez curieux, allez voir les gens, rencontrer les gens, allez à la machine à café, manger avec eux. C'est là que tout va se faire. 50% de votre travail, ça va être du relationnel. Ok? Et pour essayer de coordonner tout ça, il y a la DG, d'accord? La direction générale. La direction générale, c'est ceux qu'on abreuve un petit peu de planting. Bon. Qui prend des décisions, parfois compliquées. Autour de ça, on a les clients. Ah, eux, ils sont partout. Enfin, c'est bien d'en avoir beaucoup. Ah, il y en a des gros, il y en a des petits. Bah, il y en a qui sont entre la DG et le jury. Bah, c'est pas bon. Il y en a qui sont des gros clients pour nous, mais qui en fait sont des énormes boîtes. Et en fait, pour vous, ou pour nous, enfin, pour eux, votre société, c'est un petit truc, un petit fournisseur. Ok ? Parce qu'un client, c'est un fournisseur. Dans le sens, si seulement. Donc vous allez évoluer là-dedans. Donc il va falloir comprendre ça. Il va falloir comprendre aussi qu'il y a des fournisseurs. Alors eux, ils veulent vous vendre des trucs, ils sont à la porte. Ah, et puis il y a le fournisseur, vous savez, celui qui a fait ses études avec le patron. C'est pas le meilleur fournisseur, hein. Par contre, c'est le copain du patron, vous êtes obligé de le prendre. Donc il va falloir s'adapter à ça. Il va falloir comprendre. Il va falloir comprendre ces mécanismes. Ici, vous n'êtes toujours pas parlé d'informatique. Vous parlez uniquement de relations humaines. C'est là que vous devez faire très attention. C'est là, c'est les relations humaines qui vont tout faire. Qui vont tout faire. Bon, après, à côté de ça, vous avez des prospects, évidemment. Il faut être gentil avec les prospects, c'est les clients de demain. Et puis, je ne sais plus qui c'est qu'il y a qui ferait autour. Ah, bah, le fisc. Forcément. Non, il y a l'administration qui, évidemment, régit la vie de chaque entreprise. Donc, il faut avoir une vision. Il faut que vous soyez tout le temps capable de prendre ce schéma et de vous dire, si je parle avec ce client, quelle est sa réalité dans ce contexte? Parce que peut-être qu'en fait, ce client, lui aussi, c'est un client. Il faut comprendre ça, c'est super important. D'accord? Ça va vous permettre de vous situer dans l'entreprise. Ça va vous permettre d'être meilleur. Hein? Votre expertise, elle n'est pas juste sur je vais faire du R sur ce truc-là. Non, elle est sur. Ouais, j'ai entendu dire que lui. En fait, il avait ça comme idée, pendant que vous faites le lien, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. D'ailleurs, ça c'est vous, on va vous dropper un peu partout, un peu en parachute, hein. Et il va falloir comprendre ça. Donc dès le premier jour, j'insiste, sortez de votre bureau. Regardez qui c'est qu'il y a autour de vous. Quels sont les autres services. Faites-vous des copains dans les autres services. C'est ultra important. Ok ? Ça ne vous parle pas ce que je dis, mais peut-être que quand vous serez en entreprise, vous vous rappelez de ce qu'il disait l'autre. Ok ? Alors, un bon consultant, c'est quoi un bon consultant ? Il est curieux. Il n'y a pas de question bête. Il pose des questions. Il faut qu'il aille chercher toutes les informations. Il n'y a pas de question bête. En plus, vous êtes jeune. On ne peut pas refuser une question à un jeune. Parce que comme on ne vous l'a jamais dit, on ne peut pas dire que vous l'avez déjà dit. Il doit être compréhensif. Alors, compréhensif, c'est important. Grégoire, ami Grégoire, il dit, voilà, la cible, leur outil c'est de la merde. Grégoire, t'as 2 ans d'expérience, ils ont acheté le leader du marché. J'ai quand même du mal à croire que leur outil c'est vraiment de la merde. Mais toi, à leur place, pourquoi ils ont acheté ça? Peut-être que l'outil n'a pas été bien configuré, peut-être que l'outil il a des manques. Mais tu peux pas dire, Grégoire, l'outil c'est de la merde. C'est pas possible. Vous voyez? Donc essayez de comprendre le contexte. Pourquoi ils ont un outil peut-être pourri et pourquoi ils l'ont? Il y a forcément une raison. Un gars qui l'a acheté une fois pour un autre besoin. Et puis on s'est dit, ah putain, j'ai ce besoin là. Ouais, bah attends, l'outil doit le faire là-bas, on l'a pris. Et ça, c'est une mauvaise décision. Essayez de comprendre le pourquoi. Il doit être rigoureux. Alors oui. Des fois, vous avez 16 sur 20, vous êtes content. En entreprise, on ne peut pas avoir 16 sur 20, on doit avoir 20. Parce que tant que vous n'avez pas 20, je vais venir vous chercher, non mais là c'est pas fini en fait. Là c'est pas fini. Parce que malheureusement, le client il a payé pour 20 sur 20. Donc il faut être ultra rigoureux. C'est, par contre, rigoureux, ça ne veut pas dire psychologique. Si le client, au bout d'un certain moment, quand je dis client, attention, hein, ça peut être un client à l'extérieur de l'entreprise comme un client à l'intérieur. Quelqu'un qui vous a demandé de faire quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez le droit de lui dire. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu veux, hein. Attention. ça revient le fait d'être curieux. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Moi, j'ai vu ça dans un de mes stages. Peut-être que ça, c'est mieux. Ouvrez la discussion. D'accord ?
Vous avez le droit.
Autonome. Alors, autonome, ça veut dire quoi ? Quelqu'un peut donner une définition d'autonomie ? Allez, allez. Sinon, j'en prends un au pif. Tout le monde baisse la tête. Mais c'est là. Ouais, la définition de l'autonomie.
Moi ?
C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Bon, même sur jaune.
C'est un peu autodidacte, ça veut dire ?
Autodidacte, non, pas forcément. Je suis pas forcément d'accord. Le gars qui est autonome, c'est pas le gars, parce que moi j'ai des gens qui me disent ouais, moi tu me donnes un truc, je reviens dans 3 semaines, c'est bon, c'est fait, je suis autonome, je travaille tout seul. Non. Autonome, c'est juste être capable de poser les bonnes questions aux bons interlocuteurs au bon moment. C'est-à-dire être capable de se dire là, je suis bloqué là-dessus, j'ai réfléchi pendant 2 heures, je ne trouve pas, je vais poser la question à cette personne. D'accord ? C'est ça être autonome, c'est savoir quand on a besoin d'aide, savoir quand on doit aider les autres. Et surtout pas me dire, ah ben moi je suis capable de faire tout seul. Bon, parce que ça ne marche pas. Ok ? Gardez ça en tête. Les expériences. Vos expériences que vous allez emmagasiner, apprenez le plus de choses possibles. Écoutez, pourquoi la secrétaire, elle a marqué ça, Excel, pourquoi dans son process c'est pas ça ? Intéressez-vous à tout. Ok ? Intéressez-vous au métier, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à leurs problèmes, intéressez-vous à ce qui marche chez eux. Il n'y a pas tous les problèmes. Hein. Évidemment, quand vous croisez quelqu'un dans une entreprise, il vous explique qu'il n'y a rien qui marche. Tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, enfin, le nouveau process, c'est le bruit, mais au quotidien, il travaille, 90% de ce qui fonctionne, enrichissez tout ça, ça fonctionne aussi, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. À partir du moment où la boîte est payée au salaire, c'est quand même fonctionne, je ne sais pas. Communiquer. La communication, elle est. Avec votre responsable, avec les gens sous vous, avec les gens à gauche, avec les gens à droite. La communication, on va y revenir après, c'est pas dire je t'ai envoyé un mail. Ouais, tu m'as envoyé un mail, c'est pas de la communication. Tu m'as envoyé un mail, ouais, ben, ce que je dis à ta mère souvent, moi j'en reçois tellement que je l'ai dit. Comment ça, tu dis pas des mails ? Parce que tout en gardant, alors ça c'est une façon américaine, business first. En étant câblé, ce qu'a besoin de l'utilisateur final, ce qu'a besoin dedans, parce que comprenez ce qu'il a besoin, comprenez ce qu'il veut faire et aidez-le. Okay ? Beaucoup d'entre vous vont faire ce qu'on appelle du service et rendre un service. C'est pas dire amen à tout ce que dit votre client, surtout pas. Hein, après, probablement vous serez dans une entreprise, vous serez dans une entretien annuel et puis on vous dira que vous êtes là pour pas dire non. Tout le monde l'a vu. Oui, mais rendre un service, c'est rendre, vous parliez de valeur tout à l'heure, apporter de la valeur, c'est ça, c'est faire en sorte que la personne avec qui vous travaillez, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur, elle ait l'impression, vrai, c'est mieux qu'il faut, si vous êtes un excellent consultant, je dis ça en gros, qu'elle a progressé, d'accord, son outil est mieux, qu'elle avait mis du temps, et ainsi de suite, ok. On a presque fini, et là je vais finir avec des conseils à la loi de Pareto. La loi de Pareto, vous connaissez tous. Moi, il a appliqué comme ça. C'est toujours être capable de mettre le curseur entre. Vous devez, dans votre carrière, bah, non, vous devez, il y a un peu plus long, vous devez économiser votre énergie. C'est hyper important. D'accord ? Donc je vais faire.
Non, mais. Je vais moins être sûr de ça, mais bon.
Non, mais après, ça va le minimum pour ça.
Ouais, mais bon, alors il faut bien le leur dire parce que j'ai peur qu'ils n'entendent pas bien.
Après, vous êtes des grandes personnes. Donc c'est faire 80% des efforts, 80% des résultats. 80% des efforts, hein, pour 80% des résultats. En projet informatique, souvent, Donc on pose la question, qu'est-ce que vous avez besoin de vous expliquer un truc comme ça? En fait, vous comprenez que vous avez besoin de ça. Réellement. Et après, il traite ce qu'on appelle des cas à la marge. C'est-à-dire le cas qui arrive une fois par an tous les 5 ans. Est-ce que ça vaut le coup de payer un truc qu'on peut faire à la main tous les 5 ans?
Non.
Sauf que quand vous leur expliquez, là, ils ne comprennent pas, au début, ils disent oui. Bon, après, quand on leur explique sur une boîte de vie, qu'est-ce qu'on parle? Et là, on arrive à une notion de 80 ans, systématique. Ok? Et l'autre notion, c'est savoir vous organiser. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Être capable de prioriser ses tâches. Alors, on voit mal, je suis désolé. Vous tapez la matrice d'Eisenhower sur Internet, ça marche pour rien. Ça vous permet d'organiser vos tâches sur la journée. D'accord? Et vous allez même vous rendre compte qu'il y a des trucs qu'on va vous demander de faire. En fait, vous n'avez pas le faire. En fait, des fois, on vous demande de faire des choses dans les entreprises, et ça vient avec l'expérience, et en fait, bon, bah, vous vous dites que dans deux jours, vous me demandez de faire l'inverse. Vous ne le faites pas. Au début, vous vous dites qu'il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. En fait, vous comprenez assez rapidement à évoluer là-dedans. Vous comprenez que des fois, il y a des décisions qui sont prises un peu vite. Laissons le temps aux gens de maturer ça, ils vont réfléchir des fois, ils vont dire qu'en fait, c'est pas la peine. Voilà. On prend son téléphone et on se parle. J'insiste, on prend son téléphone et on se parle. Les mails et Skype ne sont que des outils. Me dire, ah ben moi, je t'ai envoyé un mail, c'est toi qui peux faire, c'est un peu plus. D'accord? Un bon consultant, pour schématiser, c'est un gars qui est capable de se lever de sa chaise pour aller causer avec le mec qui est à 30 mètres de lui. On en voit énormément, ils sont à 20 mètres, les mecs ne se connaissent pas. Ils sont envoyés des mails, ils sont sur Skype, à 20 mètres. Ils font des téléconférences sur Skype, alors ils sont dans le même bâtiment. Embêtant. C'est très embêtant parce que d'avoir quelqu'un, 80% des situations qui nécessitent de prendre des décisions, vous garantissez mieux de les prendre quand vous avez la personne en face. Parce que ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez voir ce que la personne a, ce que la personne ressent. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que il est l'heure. Et je vais vous demander si vous avez des questions. Oui.
Posez une question qui aimait d'abord 50, 100 mètres et vous avez maintenant.
Je peux m'asseoir, ça veut dire
quoi? Dans le tout premier transparent, il y avait le chiffre des embauches du Manif, 100, quelque chose comme ça. C'est pour l'année 2020, qui est prévu. Quels sont les profits, je ne sais pas comment dire, des embauches à Manif, là, l'année dernière, où on peut imaginer en 2020, c'est 95% d'informaticiens.
On va parler de Tours. D'accord, je ne vais pas vous parler de Manis. Manis France, ça va être. La part d'informaticiens va être effectivement moins, parce que dans Manis France, il y a Paris, il y a tous les sièges sociaux, là où il y a beaucoup de métiers. Nous, à Tours, on va être dans 60% d'informaticiens, et après 40% de gens. Comment on dit, Mehdi ? Débrouillards. Voilà. Débrouillards, avec une petite culture informatique. Et surtout avec une envie d'apprendre et un besoin, une envie d'apprendre des métiers. Enfin, c'est ça qu'on veut dire.
Sur l'exemple de Grégoire, il avait un petit peu de compétences en informatique, ouais. Si je résume, et il avait. Il était débrouillard dans la définition.
Voilà, Grégoire, c'était bien
débrouillard. Avec ce que les étudiants apprennent, on essaie de leur donner. Sur le haut registre de l'informatique suffisamment, mais on ne peut pas se disperser non plus. Un certain nombre d'heures, ils arrivent à peu près à dialoguer avec un informaticien pour pouvoir faire quelques opérations assez simples. Déjà, tu as encore mis l'accent sur bien d'autres aspects.
Moi, j'étais à la fac, on fait du commerce. On fait du commerce. C'est quoi du commerce? C'est juste créer de la confiance. C'est de la socio. C'est tout un tas de matières. Mais tout ce que vous apprenez, ça va vous servir. Savoir faire une dissertation, c'est ultra important. Quand vous allez faire une proposition commerciale, c'est très important. Tout est important. Tout ce que vous apprenez, c'est important parce que ça va vous servir à un moment ou à l'autre. Okay? Directement ou indirectement. y avait une question là.
Moi, c'est plus dans votre relation avec vos clients.
Ouais.
Je voulais savoir quelle est la part de clients qui viennent chercher le maïs. Enfin, sinon, c'est plus des chercheurs, soit le ministre, soit le marché des SN qui proposent le service. Et quel pourcentage de commerciaux chez vous qui vont chez les clients? Voilà, ça, comment se passe les contrats?
Le commerce le traditionnel, c'est-à-dire qu'au début, on va les chercher, et une fois que ça s'est bien passé, c'est le bon. C'est super, après, tour à tour, on a fait le tour de tous les consommateurs de prestations informatiques, maintenant on entretient avec un métier. C'est un métier que vous pouvez faire hein, de par votre formation commerciale, n'ayez pas peur.
Personne ne demande de ça gagne, ça gagne pas. Personne. Vous nous la faites chaque année, voilà. Alors, c'est quoi les problèmes de salaire?
Ça veut dire quoi?
Ben, combien un consultant qui sera embauché chez vous, qui aurait un master de chez vous, peut espérer gagner un premier salaire, un premier emploi?
D'accord. Ça dépend s'il est débrouillard.
Il est forcément débrouillard parce qu'il a été bien recruté. Donc c'est le que je suppose.
Si vous avez fait les stages, on est sur une fourchette de 30-31. Si vous avez fait de l'alternance, ça compte. Donc ça peut être dans un parcours ailleurs ou un enchaînement. Et là on est sur du 32-34.